RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Après la terrible désillusion face aux voisins Biarrot lors du match d'accession 2021 suivi d'une année de purgatoire, les voici de retour dans l'élite, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. Et ses plus de 115 ans d'existence ont regoûté aux joies et aux craintes du top 14 depuis le début de la saison. L'occasion pour les poteaux de faire le point sur ce club pas comme les autres et son stade Jean Daugé refait à neuf, mais qui malgré la peinture fraîche n'a rien perdu de son ambiance caliente, bien au contraire. Alors comment éviter de faire l'ascenseur entre top 14 et pro D2? Comment exister dans un championnat qui fait la part belle aux grandes métropoles et aux présidents milliardaires? Toutes ces questions, nous allons les poser dans un instant à Philippe Taïeb, le président de l'Aviron. Pour m'épauler dans cette délicate mission, je vais m'appuyer aujourd'hui sur une équipe de choc. Il n'y a pas beaucoup de Basques là-dedans. On a Denis Charvet, par exemple. Hein.
Bonjour, mais on les aime, les Basques.
Ah ben, on les adore.
On a des amis, les Basques.
Manu Massicard, lui non plus, pas vraiment Basque, mais bon.
Non, pas du tout Basque, mais moi, je les aime bien, les Basques. Mais c'est franc, contrairement à Denis Charvet, moi, je dis la vérité.
Wilfried Templier, lui, il est un peu plus haut sur la côte atlantique. Il est avec nous, évidemment. Ouais. Salut, Wilfried.
Salut, les gars. Salut.
Et puis alors, le plus Basque des Béarnais, mais lui non plus n'est pas Basque. J'ai nommé Paul Lafitte.
Faut choisir, quand même.
Ouais. Non, mais il est 60. Il va dire qu'il est 64.
Exactement.
Paul Lafitte. Ça va, Paul?
Salut, messieurs.
Salut, Paul.
Bien. Salut, les gars.
Très bien. Donc, après la désillusion, puis la reconstruction, l'aviron est donc de retour parmi les grands.
Bayonne qui a les deux pieds en top 14, c'est bon, on peut le dire.
Et moi, je donnerai tout aujourd'hui pour que vous montiez l'année prochaine en top 14, parce que vous le méritez.
L'aviron était en mission un an après un énorme traumatisme. Les fantômes du passé récent s'effritent, s'envolent. Un an après, Bayonne retrouve l'élite, retrouve le top 14.
Parce que vous le méritez, les mecs. Parce que vous avez tout donné. Pendant 4, 3, 2, 1 an, tout donné.
3 ans après, Bayonne est à nouveau champion de Pro D2 grâce à cette victoire face à Mont-de-Marsan. 49 à 20.
Voilà un moment de tristesse et de joie mêlée. C'est la vie d'un club de rugby pour évoquer l'aviron qui, de mieux que son président, Philippe Taïeb, qui est donc avec nous entre les poteaux. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Je le disais, Philippe, c'est un nouveau départ pour l'aviron qui, après une seule saison en Pro D2, est donc déjà de retour dans l'élite. Troisième retour en cette saison. L'ascenseur marche à plein quand même depuis quelques années à Bayonne. J'imagine que vous aimeriez qu'il reste bloqué sur l'étage top 14 pendant quelques saisons maintenant.
Si vous demandez à un aveugle de voir, il va vous répondre que oui. Donc, mais bien entendu qu'on a envie de rester dans l'élite du rugby français, mais après, ça se mérite et il va falloir aller le chercher tous les week-ends et mériter d'y être ou pas y être, parce que le top 14, on s'en est encore aperçu ce week-end, est très cruel. Donc il va falloir continuer à travailler, surtout avoir beaucoup d'humilité, parce que bon, on est aujourd'hui en reconstruction, je dirais, d'une équipe, d'un staff. Donc c'est vrai que ça va être une année compliquée, mais bon, on l'a voulu, maintenant il faut l'assumer.
Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs grands clubs du passé du rugby français qui ont disparu dans les divisions inférieures. Comme ça, l'aviron bayonnais de retour au sommet, qui n'a jamais été très loin du sommet, parce que ça a été top 14 ou pro D2 à chaque fois, mais ils se bagarrent année après année pour retrouver ou pour rester dans l'élite.
Oui, Bayonne, c'est la référence. Ils ont le meilleur public de France, peut-être avec La Rochelle maintenant, parce qu'on voit que La Rochelle se fait le plein à chaque match, mais Jean Daugé, c'est spécial, quoi. Voilà, pour y être allé, pour avoir vécu des moments là-bas et y avoir joué aussi, c'est quand même ça fait partie du patrimoine du rugby français. Donc c'est vrai que les voir ici en top 14, de les voir revoir, ça fait plaisir. Puis après, c'est vrai que le top 14 est devenu tellement difficile que y a pas de recette miracle, en fait. Parce que là, je vois que vous avez augmenté le budget cette année, président, et qu'en fait, le recrutement est bon. Et après, bon, il faut gagner les matchs.
Mais non, mais c'est sûr qu'on a créé une économie qui nous permet d'avoir, je veux dire, une masse salariale aux alentours de 8 millions, 7,5, 8 millions, un budget de 21,5. Ben, c'est ce qu'on a construit grâce aux infrastructures, aux nouvelles tribunes, surtout, je veux dire, à la diversité aussi de notre activité, de l'activité de l'aviron, avec festivals, locations, réceptifs, une animation réelle autour de notre stade qui nous crée des ressources, mais on a toujours le même problème, c'est-à-dire que quand le 6 juin ou le 24 mai, suivant l'année des finales, vous devez recruter pour monter en top 14, vous recrutez les joueurs qui veulent bien venir, les joueurs qui n'ont pas été déjà contactés, signés, et vous commencez votre montée avec un effectif Pro D2, je veux dire plus, parce qu'on avait recruté des garçons potentiellement pour jouer en top 14, mais bon, on avait aussi un effectif important, la moitié de notre effectif de Pro D2, mais je crois que c'est un peu le problème de toutes les équipes qui montent au dernier moment.
Ouais,
c'est
mais ça veut dire, président Christophe, je voulais demander juste au président, ça veut dire que cette masse salariale, qui vous l'a dit autour de 8 millions, alors c'est vrai que le salary cap est à 10,7 et va descendre à 10,4 et 10, mais ça veut dire que dans les mois et les années à venir, s'il y a maintien déjà dans les mois à venir, ou est-ce que vous voulez l'augmenter ce salary cap, parce que le nerf de la guerre aussi, c'est avoir des bons joueurs, et les bons joueurs, ça vaut de l'argent.
Non, mais aujourd'hui, comme j'expliquais, c'est le plan de vol de l'Aviron 2026, c'est d'arriver à 10 millions de masse salariale, ce qui nous mettra au niveau de l'ensemble des équipes du top 14. Et surtout, c'est construire une économie réelle sans mécène ou sans partenaire qui aujourd'hui représente le 2% de notre budget. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a. Et c'est grâce aux clubs partenaires qu'on anime, aux abonnés, aux spectateurs, à nos guichets fermés et au public qui est derrière le club. Donc, c'est important de pouvoir être indépendant financièrement et de dire on avance avec l'effort de tout le monde. C'est pour ça que toutes les composantes du club sont importantes.
Ouais. Manu Massicard, c'est vrai que pour ces clubs qui vivent dans des bassins économiques qui ne sont pas les plus importants de France, il faut quasiment à chaque fois se réinventer. Et Bayonne, justement, par l'entremise de son président, arrive à trouver un modèle économique que d'autres n'ont pas réussi à trouver.
Oui, il existe du côté de La Rochelle, vous en parliez, certainement aussi du côté de Toulouse, sur un modèle un tout petit peu différent, mais il y a une grosse ferveur et un noyau de partenaires très présents. Donc le modèle de l'Aviron que décrit Philippe, il est solide, et on voit bien que s'il n'y a pas de hasard, si le club est remonté et arrive à avoir un tel budget. Philippe, j'ai envie de te demander si cette année, qui est pas forcément dans ton plan de vol dont tu parlais tout à l'heure, était prévue la remontée immédiate. Est-ce que c'est pas la saison la plus difficile à gérer des prochaines années, justement?
On est toujours confronté au problème de cette incertitude de division, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé notre recrutement pour la future saison, on est en renouvellement de nos joueurs, et c'est vrai qu'on a toujours cette clause de descente parce qu'elle est devant nous, on doit l'accepter, on est encore un club fragile sportivement, parce que on avance, on recrute au dernier moment. Malgré nos 8 millions, on est loin des 10,7 millions du salary cap. Et on a, je veux dire, intégré 18 nouveaux joueurs, un nouveau staff. Donc, c'est vrai qu'on a une année difficile, mais l'année prochaine sera aussi une année si on arrive à se maintenir. Mais on n'aura jamais, j'espère, qu'on vivra les belles années que vive La Rochelle, qui est un exemple pour nous aussi, avec 74 guichets fermés. Nous, pour l'instant, on annonce 4-5 guichets fermés au moins jusqu'à Toulon. Et puis après, je crois que suivant les résultats de l'équipe et les enjeux, on espère faire la saison à guichets fermés, avec, comme je dis, une économie qui se construit vraiment avec l'effort de tout le monde. Et c'est important d'impulser ce goût du travail et ce goût du résultat à tous les étages, administratif, sportif, associatif, nos socios, nos partenaires. Tout le monde est autour de ce club et c'est tout le respect qu'on doit avoir envers ces gens-là.
Vous êtes vraiment sur le modèle de La Rochelle, en gros?
Oui, parce que c'est un modèle. J'ai eu la chance ou la malchance de jouer en 92 contre La Rochelle et il y avait peu de public, et aujourd'hui, je trouve qu'ils ont, construit avec un président qui est là depuis 30 ans. Et je crois que la gouvernance est aussi importante d'un club. Et nous, on a eu beaucoup, je crois, d'instabilité autour du club. Il faut qu'aujourd'hui, notre conseil d'administration, c'est 10 familles du Pays Basque, une jeune génération qui est présente et engagée, qui a permis aussi au club de pouvoir emprunter pour construire ce stade, qui quand même a coûté de l'argent aussi, mais voilà, c'est important avec une municipalité qui nous suit. Je crois que tous les voyants sont au vert. Maintenant, à nous aussi, à nous, au staff, aux joueurs, de comprendre ça et d'y arriver, parce qu'ils font le maximum, mais Voilà, on n'a pas été payé samedi, mais il ne faut pas qu'on ne joue pas pour faire des bons matchs, on joue pour gagner.
Alors Paul, tu suis les pérégrinations de l'aviron depuis de longues saisons. Maintenant, on va voir avec toi quelles sont les nouveautés de l'aviron bayonnais, et notamment ce stade, Jean Daugé, qui a mis des années à être rénové, mais cette fois-ci, ça y est, il est beau, il est magnifique même. Hein.
Oui Christophe, magnifique, avec tout d'abord donc, le nouveau centre d'entraînement et de performance de l'aviron, qu'on appelle l'AB Campus, sorti de terre il y a quelques mois et inauguré il y a une quinzaine de jours par les joueurs. C'est un lieu de vie pour l'équipe et le staff, ainsi que pour l'ensemble du centre de formation, et qui jouxte les terrains d'entraînement du club Ciel et Blanc. Deuxième grande réalisation, la nouvelle tribune Europcar d'une capacité de 3500 places, qui a fermé le stade dans une configuration à l'anglaise et ouverte au public il y a 10 jours pour la réception du Racing 92. Et sous cette tribune, on retrouvera les deux vestiaires, l'espace pour le corps médical, les locaux antidopage, une zone média et de nouveaux espaces de réception. L'inauguration de cet ensemble étant programmée le 31 décembre pour la venue de Toulon à Jean Daugé à l'occasion du fameux Boxing Day. Enfin, la troisième réalisation de l'ère Taïeb, qui est en fait la première, puisqu'inaugurée la saison dernière lorsque l'aviron était redescendu en Pro D2, c'est la tribune Keolis d'une capacité de 3500 places avec des loges partenaires et VIP. L'enveloppe globale de travaux s'élevant à 27 millions d'euros, 20 millions d'euros pour les deux tribunes, 7 millions pour l'AB Campus avec 14 millions de fonds privés et 13 millions de financement public.
C'est bien, Paul, t'as pris tes billets, t'as noté les tribunes avec les sponsors. Les 5% pour Paul Lafitte, là, ils y sont.
Il a juste, c'est vrai qu'il connaît bien le dossier. Si j'ai besoin un jour, je m'en rappellerai.
C'est gentil, Philippe.
Je m'en rappellerai. Mais c'est juste que les enveloppes ne sont pas exactement. C'est 32 millions avec aujourd'hui 16-17 de fonds privés et 15 de fonds publics.
Ok. Le stade Jean Daugé, il appartient parce à la municipalité que, ou au club, Philippe?
Non, pendant 40 ans, on a signé un bail emphytotique. Aujourd'hui, on est chez nous. C'est ce qui nous a permis de pouvoir construire, je veux dire, le stade, parce que dans l'enveloppe, vous avez oublié l'éclairage, les nouvelles salles de réceptifs qui étaient dans l'ancienne tribune et la pelouse hybride qui nous a coûté quand même plus d'un million d'euros. Donc aujourd'hui, le projet global de rénovation, c'est 32 millions, mais comme je dis, un ratio qui est important, c'est 4,5 millions de ressources supplémentaires qu'on génère grâce à ces nouvelles tribunes.
Ouais. Alors, je ne sais pas qui était au match face au Racing. Paul y était. Est-ce que
évidemment
l'ambiance est la même qu'à l'époque ancienne de Jean Daugé? Est-ce qu'elle est encore montée d'un cran, même, cette ambiance, Paul?
C'est une ambiance formidable, Christophe, que l'aviron, d'ailleurs, dispute des rencontres de Pro D2 ou de Top 14. L'ambiance est toujours la même, magnifique. On le disait, La Rochelle a certainement l'un des publics les meilleurs de France, mais Bayonne peut aujourd'hui rivaliser les yeux dans les yeux. Les gens de Bayonne aiment voir jouer l'aviron bayonnais à un stade, on va le rappeler à nos auditeurs évidemment, qui est en plein cœur du centre-ville. Hein, donc une ambiance dans les rues, mais une ambiance dans le stade de Jean Daugé, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus.
Ouais. Mais est-ce que c'est plus fort de justement que le stade soit fermé comme ça, se ferme un peu? Est-ce que ça résonne plus?
Ça
le président peut peut-être nous dire si...
On a encore une partie du virage qui n'est pas fermée, donc qui sera inaugurée le 31 décembre pour la venue de Toulon. C'est vrai que ce stade a pris une dimension quand même complètement différente de nos vieilles tribunes qui nous ont servi quand même. Hein. Faut pas oublier le passé, mais c'est vrai que aujourd'hui, le public de l'aviron, c'est quelque chose. C'est notre ADN, c'est notre fonds de commerce, souvent je dis, parce que grâce à eux, on arrive à capter des partenaires, on arrive à capter nos abonnés, et surtout, quand on voit, aujourd'hui, on a déjà 4 affiches futures à Jean Daugé, on est quasiment plein partout. Ça fait du bien, mais ça porte aussi les joueurs, parce que ce match du Racing, à la mi-temps, pas beaucoup de personnes nous donnaient gagnant, et puis le public a joué son rôle, et je crois que les joueurs ont compris, surtout les nouveaux, qu'est-ce que représentait d'être joueur de l'aviron? C'est du 24-24 et du 7-7, quoi. C'est tous les jours, vous êtes joueur chez le boucher, chez le charcutier, à l'école, à la maison, partout. Voilà.
Finalement,
et c'est important parce que ça nous rappelle un peu les valeurs de notre sport.
Ouais. Finalement, avec ce stade, président, vous êtes prêt pour la fusion avec Biarritz?
Oh là 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 là!
Ils ont de l'eau chaude à Bayonne.
Non, mais je sais que Denis a toujours un petit humour.
Non, je plaisante. Chacun son identité. Je ne suis pas pour la fusion.
Ah mais c'est vrai. En plus, tu l'as connu peut-être avec le Racing et le Stade français, mais ça, c'est jamais fait.
Jamais fait. Alors, est-ce que ce stade sera entièrement réservé au rugby ou est-ce que vous allez l'ouvrir à d'autres événements, comme c'est le cas par exemple pour le stade du Racing avec Jackie Lorenzetti, qui d'ailleurs ne fait pas du rugby sa priorité. C'est-à-dire que quand il y a d'autres événements qui doivent être organisés au Paris La Défense Arena,
il l'a toujours dit.
Voilà. Est-ce que vous allez partir dans la même optique, Philippe, ou alors ce sera priorité au rugby?
Non, Jean Daugé, c'est le rugby, et à côté, il faut savoir aussi se diversifier et surtout apporter, des ressources supplémentaires qui ne dépendent pas de nos résultats sportifs, donc c'est quand même important, ou de notre division. C'est pour ça qu'on est en programmation d'un festival au mois de juin. On essaie aussi aujourd'hui, on va s'orienter vers le rugby féminin, qui est une nouvelle population, un nouveau public. Et j'adore ce rugby féminin parce que vous êtes capable de faire 10 000 ou 14 000 si l'année dernière on a vu les deux tribunes. Et il faut regarder ce rugby féminin parce que c'est vraiment une nouvelle clientèle. C'est quand même, une nouvelle génération qui arrive, plus jeune peut-être que certains de nos abonnés. Mais nous, on va diversifier notre stade, bien entendu. Oui.
Très bien. Alors, on a parlé de l'économique, on a parlé de ce stade, de ce centre d'entraînement qui est en train de voir le jour. Parlons un petit peu maintenant de l'aspect sportif, parce que beaucoup de joueurs sont arrivés à l'intersaison. Paul me faisait remarquer tout à l'heure, ce n'est pas 18, mais 20 joueurs en tout qui sont arrivés à Bayonne cette année, et notamment quelques stars à la charnière, où deux joueurs expérimentés sont venus. Paul, on pense évidemment à Camille Lopez, Et à Maxime Macheneau, et ils ne sont évidemment pas les seuls, hein. Il y a du beau monde qui est arrivé, hein.
Oui, Christophe, du beau monde et pas des moindres. Tu évoquais Maxime Macheneau à la mêlée, en provenance du Racing 92, où il aura passé 10 saisons. Un joueur de caractère, évidemment, et d'expérience, avec 38 caps au compteur en équipe de France, qui compte bien aider l'Aviron à se maintenir en top 14, même si pour l'instant, Maxime Macheneau est blessé. Il devrait peut-être retrouver l'Aviron bayonnais pour la venue de l'Union Bordeaux-Bègles. Ce sera samedi en fin d'après-midi à Jean Daugé. Et son pendant à l'ouverture, Camille Lopez également, qui après 8 saisons à Clermont, souhaitait relever un dernier défi en top 14, tout en se rapprochant de sa terre natale, Mauléon, au Pays Basque. Un choix de cœur pour cet ouvreur aux 28 sélections sous le maillot tricolore. Et puis on citera également l'arrivée du talonneur international argentin Facundo Bosch, en provenance lui de La Rochelle, un club cher à Wilfried Templier évidemment, pour densifier et muscler le secteur de la mêlée, en proie aujourd'hui à quelques doutes depuis l'ouverture de ce top 14.
Camille Lopez, qui après avoir passé 13 saisons loin de sa région d'origine, revient donc au Pays Basque avec de grosses responsabilités partagées avec Maxime Macheneau. On l'écoute.
On ressent qu'il y a beaucoup d'attentes, mais de par notre positionnement sur le terrain, que ce soit le 9 ou le 10, on est obligé d'avoir nos responsabilités sur le jeu, sur la conduite du jeu. Donc au niveau du groupe, on a forcément un rôle qui rentre dans cette case de leader. Maintenant, ça se fait naturellement sur le terrain. Et comme j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a fait telle ou telle carrière que je suis là pour faire la leçon à qui que ce soit. Voilà, on est tous au même niveau, on va tous être dans le même bateau et se battre tous ensemble pour faire que ce club reste en top 14.
Camille Lopez, le nouvel ouvreur de l'Aviron bayonnais. Alors Lopez, Macheneau, charnière d'expérience, 66 ans à eux deux, mais aussi 66 caps en équipe de France. L'expérience, justement, de cette charnière, Denis, tu penses que c'est capital pour espérer, justement, rester en top 14, l'expérience de ces gars-là, oui. Ces vieux grognards du top 14?
Bien entendu, et capital surtout à des postes clés dans le rugby moderne, que sont le poste de demi-mêlée et de demi-ouverture. Camille, on l'a vu encore samedi face au Stade français, il a fait une très grande prestation, on le sent à l'aise dans ses nouvelles couleurs. Mais Maxime Macheneau, qui n'était pas là, mais qui va apporter aussi sa grande expérience qu'il a. Et effectivement, ça peut leur faire du bien, ça peut les mener dans une position confortable, je l'espère pour eux.
Ouais. Maxime Macheneau, qui est encore blessé, je crois, mais a priori devrait bientôt revenir sur les terrains, hein, Philippe.
Ouais, c'est ça, Christophe.
Ouais, ou Paul.
Normalement, enfin, on verra. Oui,
écoutez, nous l'attendons avec impatience.
Évidemment.
Ce sera samedi.
Ce sera samedi prochain.
Et capitaine, j'imagine, président.
Le capitaine, c'était Camille samedi dernier. Donc, c'est vrai qu'il y a un capitaine qui a été donné.
T'as qu'à nommer le capitaine de
Non, mais il a été souvent.
Non, mais après, je crois que les, comme je dis souvent, le président préside, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, et chacun doit rester dans son rôle. Moi, je suis là pour amener d'une économie et mettre dans les meilleures conditions le sportif. Et c'est pas moi qui vais décider du capitanat, qui suis dans, voilà, qui va. Je n'ai pas l'atmosphère du vestiaire. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a un manager qui a été nommé. C'est lui qui décide tous les choix sportifs. Donc, à la limite, moi, je suis pas spectateur parce que je suis parti pris. Mais bon, c'est à eux de décider ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire et sur le terrain.
Philippe, vous avez été chercher ces deux joueurs d'expérience. Vous parliez du modèle Rochelet dans le développement. La Rochelle, à un moment, a été chercher des joueurs comme Jason Heaton, qui a amené derrière Victor Vito, puis Pierre Barlow. Et voilà, quand on a des internationaux, les Dulin, les Danty sont arrivés derrière avec le développement sportif. Est-ce que ça veut dire que, vous avez parlé, hein, vous n'allez pas nous le dire, mais que vous êtes déjà dans le recrutement de l'après? Est-ce qu'il faut viser des joueurs de ce standing pour passer un cap?
Mais c'est une certitude. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de joueurs bayonnais ou issus de la formation bayonnaise ou du Pays Basque qui font le beau jour de grands clubs. Et c'est à nous aussi maintenant de dire ça, on existe, on est prêt à vous recevoir. Et ils sont partis pour des choses qu'ils n'avaient pas peut-être au club. Aujourd'hui, on est capable de se mettre au niveau déjà structurel. Et puis, on a un avantage, c'est que vivre au Pays Basque, ben, c'est un petit avantage quand même, il faut le rappeler. Mais je crois que d'abord, nous avons de beaux joueurs à venir rechercher. J'ai toujours dit qu'il faut qu'on arrive à jouer avec 60-70% des joueurs issus de notre région, de notre formation, et c'est très important. Et après, bien entendu, que le jour où on arrivera à ce salarié cap, eh bien, on pourra viser peut-être des joueurs internationaux autres que nos anciens. Mais je crois que c'est un petit peu le panachage de toute génération, étrangers et nos anciens qui doivent revenir, qui sont des gens d'expérience, pas des anciens.
Ouais, pas le modèle.
Ça va revenir Charles Olivon.
Charles, bien entendu.
Mais s'il veut venir,
c'est une bonne idée. Si un jour
il veut revenir, on va.
Voilà,
mais il y en a d'autres, vous savez, il y en a d'autres. Si vous faites. Il y a à peu près 10 ou 12 joueurs qui aujourd'hui font le bonheur des grands clubs. Bon, mec, ils savent qu'on peut les accueillir aujourd'hui avec un beau centre d'entraînement, un beau public, une économie qui est bien construite, je crois, et un stade tout neuf. Donc, à eux aussi de nous faire voir qu'ils aiment ce club et qu'ils veulent revenir chez nous.
C'est quoi, Philippe, la priorité en termes de recrutement? C'est justement de faire revenir ces Basques au pays ou c'est de se renforcer avec le meilleur joueur possible, quitte à ce qu'il soit étranger, comme disait Wilfried? D'autres en sont passés par là pour assurer leur construction.
Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, il faut qu'on reste sur notre ADN. C'est, oui, la priorité, ça serait de faire revenir ces joueurs. Les joueurs étrangers, c'est un complément, c'est le plus, je dirais, mais essayons de garder, vous savez, quand vous portez ce maillot et que vous avez vos parents, vos grands-parents qui sont dans les tribunes, et peut-être que les 20% qui vous manquent d'efforts, vous allez les faire parce que justement, votre famille est là avec vous. Par rapport à l'étranger qui a une culture différente, dont nous, la priorité, bien entendu, c'est de faire revenir ces anciens chez nous et qui méritent aujourd'hui de revenir parce que, je dis, ils sont partis dans un contexte peut-être qui n'était pas du plus stable ou on ne répondait pas aux exigences du haut niveau.
Tu penses à qui, là,
précisément ?
Bien entendu,
que la priorité serait de faire revenir ces anciens.
Tu penses à qui précisément là?
Il y en a 10, donc je ne peux pas tous les citer.
Les prochains noms sur la liste, c'est lesquels?
Je t'en donne si tu veux, Ituria.
Non, mais.
Etria.
Il y en a beaucoup dans le. Il y en a beaucoup. Etria, Ituria, Olivon, Lavo, Chosenou, voilà. Il y en a beaucoup.
Luc.
Spring, le petit. Timbergen, on a beaucoup de joueurs qui se promènent sur le championnat français.
Spring, ça va être dur quand même. Ah oui, il est un peu recherché par
les... Oui, non, mais tout est dur, mais tout est envisageable. Tout est envisageable.
Un bon président.
Il faut bien rêver.
On a son frère, ça va, on a déjà son petit frère.
En tout cas, le message est passé.
On a son petit frère.
Un petit mot sur le début de saison, Philippe et messieurs. Il y a eu donc cette victoire à Jean Daugé face au Racing. C'était mal barré, mais effectivement, le 16e homme du public a réussi, avec l'équipe évidemment, à renverser la situation. Ça a été plus compliqué à Toulon lors du premier match. Et puis donc ce week-end, Denis, tu étais à Jean Bouin. Franchement, ils sont pas récompensés.
Ouais, c'est une défaite.
En plus, c'est une défaite à 0 points, quoi. C'est
oui, voilà. Au moins, on prend un point de bonus défensif. C'est une défaite cruelle face à un stade français moyen, mais des Bayonnais qui se sont accrochés jusqu'au bout, qui les ont perturbés. qui ont défendu la ligne à outrance. Je les ai trouvés vraiment très accrocheurs, très déterminés, et ils n'ont pas été récompensés malheureusement.
Manu, Wilfried, pour espérer rester en top 14, il faut d'abord évidemment s'imposer à la maison, mais il faut aussi aller chercher des points à l'extérieur. Ce sera la mission de l'Aviron, et il n'y a pas beaucoup de pelouses où on peut espérer aller chercher des points en ce moment.
Ouais, franchement, président, c'est un match que vous devez jamais perdre. Moi, je l'ai regardé, pour tout vous dire, je l'ai regardé avant cette émission. Vous devez jamais perdre ce match, et ça va vous laisser des regrets. Mais vous savez très bien, parce que vous êtes passé par l'étage de top 14, qu'il en faudra pas trop des matchs comme ça, de laisser des points en route, parce que vous avez mis le Stade Français en grande difficulté, notamment en première période. Mais puis à la fin, vous pouvez avoir gagné, même bonus défensif, et puis plus rien à la fin. Avouez que ça a été difficile de repartir de Paris, j'imagine, samedi soir.
Non, on n'est pas reparti samedi, on est reparti dimanche. On a passé un petit moment avec les joueurs, on a passé un petit moment de convivialité, parce que Paris est une belle ville. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été payé, mais je veux dire, on ne va pas pleurer sur notre sort. Hein. Je veux dire, on n'a pas payé, on n'avait qu'à faire ce qu'il fallait faire. Et voilà, la 77e, quand vous êtes en possession du ballon avec 19-16, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. Voilà, on peut pas. On doit garder ce ballon, on doit aller chercher ou le point de bonus ou le match nul si on a une pénalité. Mais c'est le top 14 qui vous laisse rien de marge de manœuvre. Donc il faut l'accepter. Et je crois que c'est une expérience, j'espère, qui va nous servir pour les prochains matchs. Après, si on arrive à gagner tous les matchs à la maison en 52 points, on pourra peut-être se maintenir. D'accord. Voilà, mais bon, il faut regarder devant, et on va dire qu'on est en apprentissage, mais l'apprentissage, on n'a pas droit de le faire durer longtemps, surtout dans cette division.
Alors, le calendrier, Paul, je crois, est pas mal hein, pour les semaines à venir. Je crois qu'il y a d'abord la réception de l'UBB le week-end prochain, c'est ça ? Et puis ensuite, déplacement à Brive. Hein.
C'est ça, voilà. Menu copieux pour les Bayonnais.
Et la Rochelle, après.
Et la Rochelle derrière.
La Rochelle, à Casse, Perpignan, Toulouse, à domicile. Bah,
tous les week-ends. Ouais, en fait, c'est le top 14, les amis.
Ça. Voilà, c'est ça.
Oui. C'est le top 14. Manu, un petit mot. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, dans Midi Olympique, vous avez fait un sondage parmi les entraîneurs du top 14. Et c'est vrai que lorsqu'on est promu, souvent, tout le monde vous annonce redescendre en Pro D2 dès la saison suivante. Ça n'a pas été le cas, justement, puisque le sondage ne donne pas Bayonne en prioritaire en redescente immédiate.
Non, ça veut dire que le travail qui a été effectué depuis un an, les résultats sportifs de l'année dernière, la belle dynamique, hein, parce que rappelez-vous cette fin de saison formidable, et puis le début de saison, enfin la promesse de ce début de saison, fait que les entraîneurs du top 14 ont confiance dans cet effectif, ont confiance dans ce staff et croient au projet. Vous l'avez dit, hein, ça va se jouer sur des matchs comme celui du Stade Français qu'il ne faut surtout pas perdre. Ça sera à la lutte avec Brive, avec Perpignan. Mais évidemment que c'est pas le cas de tous les promus, mais l'Aviron a son lot de supporters et d'entraîneurs qui croient en eux.
Après, rappelez-vous, l'année dernière, Perpignan s'était longtemps dit que la 13e place et le barrage, c'était pas catastrophique. Et ils ne sont pas mis plus de pression que ça par rapport à ça, et ça leur a réussi. Même si sur un match, ils seraient évités ce match terrible, une fois l'avoir gagné, ils ont expliqué que c'était terrible comme match à jouer. Et Bayonne est bien placé pour le savoir.
Ah, ben oui, évidemment, avec cette défaite face à Biarritz hein, en 2021 qui avait fait très mal à la tête.
Oui, pas de barrage peut-être.
On vous souhaite évidemment, Philippe, bien de réussir, de rester quelques années en top 14, pourquoi pas un chemin. À la Rochelaise, ce serait pas mal. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne saison avec l'Aviron et de bons moments à Jean Daugé.
Au revoir.
Voilà donc pour les poteaux du jour. Merci Philippe Taïeb, merci également à toute la bande. Vous allez descendre un peu voir des matchs à Jean Daugé, monsieur.
Si le président nous invite, oui.
Ah oui, si t'invite, oui, mais toi t'aimes bien.
Il y a quelques joueurs sur place, Denis. Hein.
Non, par contre, j'ai un message à faire passer au président. Je risque de lui demander un joueur ou deux pour les Barbarians.
Enfin. Ah d'accord, mais toi t'es comme ça, ouais. Déjà que.
Oui, on joue contre les Fidji le 19 novembre à Lille.
T'as pas choisi encore.
Voilà. Non, mais en plus, tu vas jouer à Lille. T'aurais pu aller jouer au moins à Bayonne, à Jean Daugé quand même.
Oui, mais on va où on peut.
Chaque semaine, on est très
bien reçu à Lille. On est très content parce qu'on risque de faire 35 000 personnes.
C'est quand même énorme. Pas mal du tout.
Alors écoute.
T'auras pas Boden Barrett.
Non, il peut pas. Il peut pas. Il m'a dit ce week-end que malheureusement, il est blessé.
Wilfried est libre, par contre, si vous voulez.
Ouais. Très bien, merci les gars.
Ouais.
C'est pas
moi.
Ouais, je t'invite à boire une bière.
Pour conduire le bus, ouais. Pour conduire le bus.
Tu sais qu'il honore ses invitations quand même, Denis.
Oui, oui,
il promet d'inviter, il vrai, le ouais. fait. Hein.
Tu es le bienvenu, Fulfrid.
Lui seul ou nous tous? Parce que.
On vient en bus, on vient. Ou en char à voile.
Beaucoup t'es cher.
Vous imaginez
les amis,
un entre les poteaux Barbarians là avec les mecs en direct,
ce serait
pas possible à tenir.
Ce serait magnifique.
On le fait si vous voulez.
Ah bah écoute, vas-y.
Ça serait folklo.
Ça serait pas mal. Allez. Merci les garçons. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à notre Bernet Basque, Paul Lafitte, d'être venu nous parler. T'as vu,
il peut être
embauché par la com de l'Aviron Bayonnais. On a bien compris.
Par le marketing et tout, il s'est placé.
Ah, il est pas idiot.
C'est bien ça.
Ça, c'est fait.
Faut prévoir ses arrières, messieurs.
Exactement.
Tout à fait.
Jamais de quoi les lendemains seront faits. Bonne semaine à tous et à lundi prochain.
Salut.
Ciao. Bye bye.